Chers amis de PFC, bonsoir et bienvenue à Romainville dans cette réunion Prepare for Change, PFC. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2014. 14, 12, 14. Et avant de donner quelques informations, quelques nouvelles, un petit état des lieux, on va faire un petit tour de micro, simplement, pour que chacun puisse dire son prénom.
Bonsoir. Danielle, ici présente.
Bonsoir à toutes et toutes. Jacques, nous étions cinq ce soir, comme les cinq doigts de la main.
Bonsoir, Véronique.
Bonsoir, je suis Avi. Je salue également toutes les personnes de PFC, notre groupe d'environ 120 personnes en France qui se sont inscrites sur cette liste de diffusion pour avoir des informations. Toutes celles qui sont loin géographiquement et toutes celles qui sont proches géographiquement mais qui ne sont pas ici présentes. Je salue toutes ces personnes qui sont reliées à nous maintenant, qui forment un groupe bien plus grand qu'il n'y paraît. Voilà, alors c'est peut-être l'occasion de faire un petit rappel de ce que c'est que ce mouvement, peut-être d'une manière brève, et puis on peut chacun en dire une partie, si vous le sentez. Qu'est-ce que c'est que... Que préparez-vous au changement? À quoi ça sert? Dans quelles conditions ça se passe? Qu'est-ce qui est prévisible? Comment ça s'organise, on peut dire? Voilà, peut-être ces questions-là sont des questions qui peuvent cerner à peu près le sujet « Prepare for change ». Préparez-vous au changement? Alors, il semblerait que, enfin, c'est même un peu plus qu'il semblerait que la Terre ne soit pas réellement le monde du libre arbitre actuellement, même si nous pouvons penser que nous l'avons, parce que apparemment, grandement, en grande partie aux mains d'une élite qui soit, que ce soit dans la finance, ça c'est à peu près évident. Quand on regarde l'état des marchés financiers et puis leur soumission aux élites, que ce soit dans le domaine de la science où un scientifique ne peut pas dire ce qu'il veut sous peine d'être banni, que ce soit dans le domaine de la santé ou la médecine a aussi cette obligation d'être conventionnel avec les mêmes peines pour ceux qui sortent du droit chemin. Que ce soit dans le domaine des médias où un journal a une ligne directionnelle et un comité de supervision de ce qui se dit. Voilà, et encore bien d'autres domaines. On peut parler de l'éducation et puis... Dans bien des domaines, cette terre est le peuple de cette terre est plus ou moins dirigé, soumis par ses élites. Et c'est une sorte, comme il a été dit dans la méditation que nous venons de pratiquer, une sorte d'esclavage spirituel où cette terre a été mise un peu en quarantaine par certaines forces qui souhaitent exercer leur pouvoir. Voilà, donc ce mouvement vise à ce que nous reprenions notre pouvoir. C'est peut-être ça le mot principal. Alors, ça a été initié par une personne qui s'appelle Cobra. C'est un nom de code. C'est une personne qui est active dans ce qu'on appelle les forces de la résistance. celle qui essaye de faire cesser cet état de soumission par des moyens un petit peu secrets. Cobra l'a annoncé, c'est un pléiadien qui s'est réincarné dans un corps terrestre. Et il y a à peu près un an, il a suggéré qu'il y ait des groupes de soutien partout sur Terre pour élever le niveau de conscience et le niveau vibratoire de la planète Terre en méditant et en projetant nos intentions vers le futur d'une planète libérée de toutes ces élites. Ces élites ont reçu le nom, le certificat de Kabbale, le diplôme, hein, ils sont diplômés S manipulation. La Kabbale, c'est simplement l'aspect, c'est pas la Kabbale avec deux B, hein, c'est la Kabbale au sens complot, au sens secret. Donc cette Kabbale-là, c'est quelques familles sur Terre, en grande partie des banquiers, mais pas seulement, qui souhaitent influencer directement le cours de l'humanité par la finance, par l'information, etc. Et puis, nous faire travailler jusqu'à ce que nous n'ayons plus assez d'énergie pour nous soulever, etc. Enfin, quelques-uns se sortent de ce système pernicieux, mais une grande partie de l'humanité actuellement est dans un cercle assez vicieux où il faut travailler pour payer son loyer, pour payer tout ce qu'il y a à payer, pour payer aussi la dette des pays. Hein. Alors ça, c'est aussi un autre cercle vicieux. Voilà, donc ici à Romainville, c'est un des groupes de soutien de la planète Terre. Il y en a à peu près dans tous les pays. Je ne sais pas, aux dernières nouvelles, il y avait quelque chose comme 650 groupes de soutien sur la planète. Maintenant, c'est un peu plus dur à suivre parce qu'il n'y a plus ce compteur sur Internet. Il a été, pour l'instant, désactivé. Alors peut-être reprendra-t-il. Et donc, nous méditons, nous visualisons pour créer une masse critique sur Terre, pour favoriser un basculement de conscience. Lorsqu'il y a assez d'humains en conscience, forcément, le reste de l'humanité s'élève avec eux. Et ce chiffre a été fixé par Cobra à 144 000. Il faudrait qu'il y ait 144 000 personnes qui méditent en même temps le dimanche soir à 20h, pour que ce basculement puisse entraîner le reste de l'humanité. On dit aussi dans la spiritualité que un 0,5% de personnes en conscience éveillées suffisent à changer toute l'humanité. Alors 0,5%, ce n'est pas 144 000, c'est bien plus. Mais là, on ne parle pas de méditer en même temps, hein. On parle d'êtres conscients qui sont conscients de leur évolution personnelle. Voilà, alors ce basculement, d'après le site PFC, d'après Cobra, ça a démarré à peu près, ce site a démarré il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, peut-être un an et demi maintenant. D'après ce mouvement PFC, le basculement se traduirait par des choses physiques et des choses non physiques. Hein. Parmi les choses non physiques, un flash d'énergie qui viendrait du soleil central de la galaxie et qui modifierait notre état de conscience, qui nous rendrait plus conscients. Et ça, ce serait au moment même de ce qui est appelé l'événement. Ce basculement-là est appelé l'événement. Et cet événement aura pour conséquence immédiate l'arrestation des membres des élites sur Terre par les forces de la résistance, dont Cobra est le porte-parole. Voilà, donc pour info, Cobra, ce n'est pas le nom d'un serpent, mais c'est des lettres issues d'un mot qui veut dire « percé par compression ». Et en anglais, « compression breakthrough », donc il y a Cobra qui a été pioché dans ces lettres-là. Et la compression, ce serait l'union de trois forces qui œuvrent pour cette libération. Les forces extraterrestres qui sont représentées par les Pléiadiens et d'autres civilisations qui sont avec nous dans l'espace éthérique ou autour de la planète. Les forces de la résistance qui sont terrestres, qui sont réellement mêlées à la population, mais qui œuvrent dans le secret. Et puis les forces intraterrestres qui sont aussi avec nous. Donc la lumière est envoyée d'en haut par les extraterrestres, est envoyée d'en bas par les forces intraterrestres, est envoyée aussi par les forces de la résistance sur la croûte terrestre, ce qui fait que l'obscurité est prise en sandwich. C'est ça la compression qui peut aboutir à une percée de la lumière. Et c'est ce que visent les forces de la résistance. Entourer l'obscurité jusqu'à ce qu'elle devienne lumière. Voilà, donc nous méditons pour ces objectifs-là, et puis nous essayons nous-mêmes d'élever aussi notre niveau de conscience, et puis d'œuvrer dans le moment présent, en étant le moins possible dans l'attente de cet événement, pour ne pas monter dans le mental, parce que ce n'est pas productif pour élever la conscience. D'activer notre mental. Voilà, bien sûr, on le fait de temps en temps, parce qu'on a tous envie que ça arrive, et qu'on a envie du positif et pas du négatif, c'est bien naturel. Mais en même temps, regardons ce qui est productif, pour que ça se produise, ça se passe. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter, ceux qui connaissent un peu le sujet, sur PFC, pour le présenter? Chose que je n'ai pas dite, peut-être.
Véronique, une grande partie des membres de Prepare for Change est située aux États-Unis. Et le site Prepare for Change américain a diffusé depuis déjà un certain temps un certain nombre de documents qui ont été traduits pour la France, une lettre aux dirigeants et également un document beaucoup plus complet qui a été mis au point par le responsable du site mondial Prepare for Change. Et ces deux documents seront à distribuer juste après l'événement aux personnes qui sont à des postes clés, que ce soit dans les quartiers, des responsables au niveau alimentaire, au niveau des infrastructures de transport, de la distribution de l'eau, enfin tout ce qui permet bien sûr de vivre au quotidien, pour expliquer à ces personnes que ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire les arrestations notamment, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est au contraire un moment extraordinaire pour l'histoire de cette planète, un moment de libération. Donc, pour l'expliquer, il est bon d'avoir un support écrit. Donc ça a été mis au point. C'est téléchargeable sur le site Prepare for Change de Facebook, ou bien sur Être Plus. Et ce sera pour les membres de Prepare for Change un support pour expliquer ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, on ne pourra pas, je ne pense pas de prime abord, évoquer directement le sujet de l'aide pléiadienne. On ne pourra pas l'évoquer tout de suite à toute la population, parce que malheureusement... tout cela a été caché soigneusement, voire tourné en dérision par les gouvernements, je veux parler des extraterrestres. Ce qui fait que malheureusement, les personnes sur cette planète s'imaginent être seules, alors que c'est loin d'être le cas, bien évidemment. Et on ne pourra pas, il ne faudra pas les choquer en abordant tout de suite le sujet de l'aide extraterrestre. Après l'événement, une fois que ce flash de lumière va élever les consciences, va apaiser, adoucir chaque être humain qui va le ressentir, il faudra, pour ce qui concerne nos proches, nos voisins, les personnes de nos quartiers, leur expliquer que tout ceci est organisé mondialement, a été préparé avec soin, dans un but positif. Ça, voilà, je voulais préciser d'un point de vue d'organisation et d'un point de vue de concret, pratique, après l'événement.
Merci. Puis dans la synchronicité, c'est pas le mot que je voulais employer, dans la suite des événements, il est prévu une réinitialisation du système monétaire, que les banques soient fermées pendant quelques jours ou une ou deux semaines, de manière à ce que ce système puisse redémarrer sur des bases saines. Il y a été à prévoir que le système ne fonctionnera pas, il n'y aura pas d'argent au distributeur pendant quelques temps. Ceux qui se préparent à ça et ont connaissance de ces informations sont invités à avoir un peu de réserve de nourriture, un peu d'espèces, avoir du carburant dans leur voiture, etc. pour faire face à cette phase dans laquelle un nouveau système n'est pas encore commencé et un ancien est en train de se terminer. Donc le groupe de soutien, celui-là et puis les autres sur la planète, leur but est aussi de soutenir la population en leur fournissant des explications sur ce qui se passe. C'est un groupe de soutien psychologique également pour l'après-événement. Voilà, donc il est à prévoir beaucoup de changements, puisque l'élite étant mise hors de ce contrôle, de nouvelles technologies pourront être libérées. Il est prévu aussi que des fonds de prospérité soient distribués à chaque humain sur Terre, que le travail journalier soit bien moindre qu'aujourd'hui. Et puis accès à des nouvelles technologies de guérison, une nouvelle médecine. Bref, un tournant majeur dans l'aspect de notre vie, dans le sens d'une vie beaucoup plus libre et beaucoup plus respectueuse de notre nature profonde. Voilà, donc qui crée ce changement, qui crée l'événement? Je dirais nous. Nous, les extraterrestres, sont un soutien à notre élévation de conscience. C'est pas, ils viennent pas ici avec leur cape de Zorro pour nous aider ou nous sauver de quelque chose. Nous élevons notre conscience, et parce que le niveau de conscience est suffisamment élevé pour accepter ce petit bouleversement, alors ce bouleversement arrive parce que nous le demandons d'une certaine manière en tant que conscience. C'est mon point de vue, bien sûr. Voilà, régulièrement, Cobra indique qu'il y a certaines périodes plus favorables à l'événement que d'autres, au niveau astrologique et puis au niveau aussi des réalisations des forces de la résistance, puisque elles luttent dans le physique et dans l'éthérique aussi pour désamorcer, désactiver des tentatives de contrôle. Voilà, et donc il est prévu l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité qui démarre demain matin en France pour cet événement par un portail, hein, le portail Isis qui est le numéro 2 puisque nous l'avons aussi inauguré en avril, le portail Isis numéro 1. Donc nous le célébrerons à l'échelle mondiale demain matin à 6h11 pour la France. Et Cobra sera en effet à 7h11 en Égypte, accompagné de d'autres personnes qui souhaitent être avec lui sur le plateau de Gizeh pour activer ce portail. Donc au niveau pratique, je soutiens ici cette ouverture de portail en ouvrant mon lieu demain à 6h11. Nous commencerons une méditation. Donc celles et ceux qui veulent rester dormir ici le peuvent, et celles et ceux qui veulent rejoindre le groupe demain très tôt le peuvent aussi, à partir de 5h30, je dirais, et puis jusqu'à 6h05 pour qu'on puisse démarrer réellement, 6h11. Ça durera environ 30 minutes, peut-être plus. En tout cas, nous méditerons à peu près comme nous l'avons fait ce soir. De mémoire, le portail d'avril, où nous étions, c'était à 1h du matin, entre 1h et 2h du matin, oui, peut-être 2h, nous étions un bon nombre ici et il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je me rappelle que c'est assez mémorable cette énergie de groupe qu'il y avait dans ce lieu. Voilà, et ce portail, cette fenêtre d'opportunité se terminera le 17 mars. Donc il y a toute une plage où cette survenue de l'événement sera plus probable, plus favorable. Et il semblerait que, c'est aussi une conjonction planétaire entre Saturne et Pluton Uranus et Pluton, qui fait que les énergies sont favorables à ce portail-là, à cet événement aussi. Voilà, alors il peut y avoir un moment maintenant pour parler des changements énergétiques dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe de non habituel, qui pourrait être les prémices d'un changement de conscience, parce que il nous est dit que le changement de conscience ne peut pas être brutal, il sera progressif parce que notre cerveau ne suit pas. Si on monte tout d'un coup en vibration très fort, ça pète les plombs là-haut. On peut constater, certains peuvent constater que les vibrations augmentent, les perceptions changent. Tout à l'heure, pendant la méditation, il s'est passé des choses bizarres. Le volume de l'appareil a baissé d'un coup, sans que je l'ai touché, et aussi dans l'après-midi, il s'est passé des choses un petit peu similaires. Donc, avons-nous un pouvoir de l'intention encore plus développé, est-ce que certains d'entre vous voient des évolutions, des changements dans la vie de tous les jours qui indique que ce monde, non seulement nous-mêmes, mais ce monde est en train de muter, est en train de monter en conscience, parce que, mis à part l'événement, il y a aussi un bain de photons, de particules de lumière que la Terre traverse, traverse une ceinture photonique qui augmente l'énergie que nous recevons du cosmos et a un impact sur notre conscience. Donc, ceci peut avoir un impact sur l'ouverture de la conscience, de personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas ouvertes. Et puis nous-mêmes, nous pouvons constater que peut-être nous avons plus de facultés de télépathie, que nous pouvons avoir de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience. Moi, j'ai senti le pain d'épices pendant la méditation, comme s'il était carrément à 2 cm de mon nez, et je me suis étonné de la force de cette odeur que là maintenant je ne sens pas, alors qu'il n'a pas changé de place. Je me suis posé des questions réellement. Hein. Alors, il y a des mouvements d'énergie dans la pièce, il semblerait. C'est vrai que nous sommes assis en dessous d'un mobile vaisseau étoile pléiadien en cuivre, qui est un être, hein, d'après ceux qui diffusent les plans, et qui a un impact énergétique d'harmonisation sur la pièce. Et peut-être c'est lui qui a baissé le volume, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre ici présent. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'on s'amuse beaucoup, hein, à voir qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, qui se passe, mais que nous ne comprenons pas immédiatement, mais en réalité ça se passe quand même. Moi, c'est plutôt des choses qui me réjouissent quand j'arrive pas à comprendre des choses bizarres. Hein, ça... Voilà. Je cite un exemple tout à fait banal. Quand je suis arrivé ici, mes voisins, je suis locataire, hein, mes voisins n'étaient pas du tout contents que j'anime des groupes ici, parce qu'ils l'ont appris, bien sûr, ils ont ouvert Internet, ils ont vu ce que je faisais. En plus, ils ont vu que je faisais du tantra, alors c'était, ça peut réveiller beaucoup de peur. Hein. Ils m'ont tout de suite proposé qu'il y avait des salles communales gratuites et je voulais faire mes groupes là-bas. Ce à quoi j'ai répondu, je n'ai pas loué un lieu de 200 mètres carrés pour aller faire mes activités ailleurs. Le but, c'est de les faire ici. Eh bien, les relations étaient relativement mauvaises, tendues, avec le voisinage, avec les allées et venues, avec des voitures mal garées, des choses et d'autres. Et à chaque fois qu'un groupe se terminait, je disais, passez en silence, parce que les voisins n'ont pas choisi de vous recevoir et toutes ces allées et venues, moi oui. Donc respectez-les, ce qui me semble une attitude normale. Hein. Mais je leur disais aussi, envoyez de l'amour dans la cour. Au début, c'était à droite, et puis après, c'était des deux côtés. Force est de constater que c'est très apaisé dans la cour maintenant. Et qu'on se dit bonjour, je n'arrivais pas avant. Donc en 6 ans, lentement, graduellement, il y a eu un changement d'énergie dans la cour. Alors de temps en temps, ça pète les plombs ailleurs, d'un autre côté. Mais comme moi je continue à avoir une attitude positive envers eux et que je n'alimente pas tous les feux de paille, les choses se calment très rapidement. Donc voilà un changement progressif, hein, dont je peux faire être témoin dans ma vie de tous les jours. Et puis la semaine dernière, j'ai parlé de cette rubrique que je souhaitais ouvrir, qui s'appelle « Le monde change ». Lorsque nous regardons l'actualité, il y a des nouvelles assez réjouissantes du fait même que le peuple petit à petit reprend un certain pouvoir, pas tout le pouvoir. Mais ça, je le résume dans le fait que le pouvoir, auparavant et encore beaucoup maintenant, il est vertical. Il y a le président de la République, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les lois, et puis tout en bas, il y a les citoyens. Et pour avoir quelque chose, ça doit partir du haut. Ça doit arriver vers les citoyens. Par exemple, si je veux changer quelque chose dans la société, il faut que j'arrive à ce que mon député propose cette loi, que cette loi soit adoptée, les ministres éventuellement le président ont leur mot à dire sur comment fonctionne la société. Ça, c'est le vertical. Ça veut dire que ça vient du haut vers le bas. Et péniblement, ça va du bas vers le haut, hein, parce que le pouvoir d'aller du bas vers le haut est quand même très très réduit par rapport au pouvoir d'aller du haut vers le bas. Donc la société fonctionne en vertical en grande majorité, sauf que le monde change et maintenant il y a des systèmes horizontaux qui se développent. C'est quoi horizontaux ? C'est les citoyens proposent des choses aux citoyens. Et moi, j'ai relevé cette semaine, je les ai notés, j'ai relevé cette semaine au moins 3 articles d'un journal Le Monde.fr, hein, Le Monde. Il y a une petite résistance de la cabale, là. Le serveur est introuvable. Qui est revenu ? Bon, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Alors, maintenant, il y a de la finance participative. Ça veut dire que, tenez-vous bien, le gouvernement français a abrogé une partie du monopole bancaire pour permettre aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises. Ça n'a l'air rien, hein ? Mais c'est énorme. Parce qu'il n'y a plus le monopole de la banque dans les crédits. Et alors, je vais essayer de retrouver l'article. Là, ça a complètement disparu. Bon, les forces vont rester dans l'entrée, là, celles qui perturbent tout le système. Voilà, toi, tu fais la police là-haut. Hein. Donc, voilà, il y a une société qui s'appelle Lending Club. Lending, ça veut dire prêter. Hein. Qui met en collaboration des particuliers qui ont un peu d'argent et des entreprises qui cherchent des fonds. Et elle est entrée en bourse et elle vaut 5 milliards de dollars en bourse. Et c'est une entrée en bourse record. C'est pas Lending Club qui prête de l'argent, c'est Lending Club qui sert d'intermédiaire. Et Lending Club n'est pas une banque non plus. C'est vraiment un intermédiaire entre les particuliers et les entreprises. Il y a ça, mais il y a énormément, en tant que finance participative, il y en a beaucoup d'autres qui commencent à faire la même chose. Lending Club, c'est juste le leader dans ce domaine-là. Donc, un dirigeant d'entreprise fait état qu'il demandait un prêt à sa banque depuis 2 mois et que le dossier était sans arrêt retardé, il demandait des pièces supplémentaires. Et puis, il l'a obtenu en une semaine avec ce système, grâce aux particuliers. Parce qu'il y avait beaucoup moins de complications administratives qu'avec sa banque. Voilà. Aujourd'hui, dans le domaine des vacances, j'ai déjà cité à plusieurs reprises, je peux sur Internet contacter un particulier en Suède qui va mettre sa chambre à disposition. Je ne suis plus obligé de monter pour redescendre. Je ne suis plus obligé de passer par une agence de voyage ou hôtel, etc. C'est direct. Alors, bien sûr, la société est en train d'être redistribuée. Les pouvoirs sont en train d'être redistribués. Parce que les hôtels souffrent un peu de ça, donc il y a besoin de repenser un peu la société. Hein. Aujourd'hui, je peux prêter ma voiture pour 3 jours à quelqu'un qui en a besoin pour 3 jours contre compensation. Et puis, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Internet l'intermédiaire. Donc, on est en horizontal. Alors, il y a plein. Le collaboratif est en train d'exploser. Et le collaboratif, ça veut dire, on a besoin de personne d'autre que de nous-mêmes pour s'aider les uns les autres à vivre mieux. En gros, c'est énorme. C'est énorme. Alors, le crowdfunding, hein, le financement d'un projet par la foule, ça veut dire le peuple, est en train d'exploser. J'ai reçu une lettre de ma banque. Moi, je suis à la NEF. Alors, la NEF, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. Alors, déjà, ces trois mots, c'est puissant. Parce qu'il y a fraternel, hein, et puis il y a nouveau aussi. Qui disait qu'ils vont lancer des opérations de crowdfunding directement par leur intermédiaire, et que ça va financer des projets éthiques, des choses qui sont très utiles à l'humanité. Ça ne va pas être des forages pétroliers ou des choses comme ça. Ça va être vraiment des choses...
Ciblées.
Voilà. Donc, c'est le Crédit Coopératif, hein, qui parraine la NEF, qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, si je fais un film ou si je veux financer un projet tout à fait privé, mais qui a beaucoup de potentiel, en un mot ou en trois mots, hein, alors le crowdfunding, ça va, j'ai besoin de m'adresser aux citoyens. Je n'ai pas besoin de m'adresser à la banque. Il y a des films extraordinaires qui n'auraient jamais pu être diffusés dans les salles de cinéma si on avait demandé l'aval des banques, parce que le sujet est tellement hors courant principal que ça dit pas oui. Hein. Là-haut, ça dit pas oui. Donc c'est une révolution silencieuse, le crowdfunding. Et dans le collaboratif, il y a énormément de domaines, et Internet est bien sûr le support, la toile, le réseau qui sous-tend tout ça. Il y a énormément de domaines qui passent au crowdfunding, au collaboratif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, directement ou indirectement, on est beaucoup plus reliés les uns aux autres. Et cette reliance-là, elle a beau être pratique, matérielle, ça crée aussi des liens. Il y a même des gens qui font des repas, qui cuisinent chez eux, et ensuite qui diffusent sur Internet, ce soir, il y a poulet à la thaïlandaise, venez manger chez moi, contre une petite participation. Ça fait qu'il y a du lien, ça fait que les gens se rencontrent autour d'un plat, ça fait qu'il y a de l'échange, c'est humain, et c'est pas la même chose que de s'asseoir à une table de restaurant. Alors, comme les hôtels, les restaurants sont un petit peu, c'est un petit peu bouleversé par ça, ils peuvent se sentir menacés. Il y a le covoiturage qui fait que les taxis se sentent aussi un peu menacés. Ça sape un petit peu les grandes fondations de la société verticale. Mais le propre de l'homme, c'est de s'adapter. Hein, et le propre de la nouvelle société, c'est aussi d'accepter qu'il y a des choses qui étaient valables hier et qu'aujourd'hui, vu la conscience qu'il y a, elles ne sont pas valables de la même manière. Et que peut-être il y a besoin de changer les mentalités, de comment je propose mes services. Sans pour autant mettre en danger les entreprises, parce que les entreprises, c'est pas non plus le gouvernement, c'est pas... Voilà. Alors, ça, c'est déjà une chose, c'est pas fini, alors j'en ai noté plusieurs. Ça, c'était la finance participative. Alors... Ça bug un peu dans mon appareil. On va mettre un intermède musical. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Bon. Alors, oui, je ne sais pas, je n'en vois pas d'autres là. Bon, La nouvelle, pour moi, qui est vraiment forte, c'est que l'État commence à changer ses lois. Le fait que le monopole bancaire est un petit peu supprimé, ça veut dire que ce mouvement qui vient d'en bas, il est remonté jusqu'en haut. C'est ça le pouvoir du peuple. S'il n'y avait pas de cet élan-là de communiquer entre nous, de nous prêter de l'argent entre nous, il n'y aurait pas eu cette abrogation partielle du monopole bancaire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que s'il y a assez d'énergie en bas, ça remonte comme des bulles, ça remonte jusqu'en haut. Parce que le gouvernement aussi doit s'adapter au changement de société. Il y a 2-3 semaines, ou peut-être plus, j'avais dit, en Allemagne, il y a un système qui fait que je peux louer une voiture collaborative sur Internet. C'est un système qui ressemble à Autolib, qui est déjà du partage. Mais je peux louer une BMW, j'ai une sorte de carte magnétique pour la faire démarrer automatiquement, et après je la pose où je veux dans la ville, je la laisse, et il s'en occupe. Le parking est gratuit, et je n'ai pas besoin de la rendre quelque part. Comme elle est, il y a un GPS, ils savent où elle est, puis ils viennent, ou alors ils disent au prochain, elle est là. La voiture, elle est là, vous pouvez venir la prendre. Donc il y a des idées comme ça, très, très novatrices. Et quelqu'un disait, si aujourd'hui il fait beau, j'ai envie d'une décapotable juste pour emmener mon ami faire un tour aux Champs-Élysées. Hop, je vais voir, est-ce qu'il y a une décapotable, quelle couleur, jaune, rouge, ok. Et puis, voilà, on est dans un autre mode de pensée, ces systèmes qui mettent les ressources en commun. On partage les choses pour que une même voiture, elle puisse servir à 100 personnes plutôt qu'à une. Ce qui fait que ça pollue beaucoup moins et que le parc des voitures, si tout le monde fonctionnait comme ça, il y aurait 100 fois moins de voitures sur les routes. Ce qui fait que l'air serait plus respirable. Donc c'est un cercle vertueux, parce que on commence, et puis l'électrique, etc., tout ça, ça... Ah oui, j'ai vu dans l'émission Future, avec un E, aujourd'hui, que il y avait des taxis, non, c'est pas dans Future, mais peu importe, sur Arte, ça c'est ma chaîne favorite, qu'il y avait des taxis électriques à Amsterdam. C'était pourquoi il y a des taxis électriques? Parce que c'est une des seules villes au monde où il y a des bornes de rechargement un peu partout. Et c'est une ville exemplaire à bien des aspects. Et les constructeurs de voitures électriques lancent leur modèle à Amsterdam parce qu'il y a des bornes de recharge partout. On voit que c'est un cercle. Ça alimente le truc. La ville est écologique. Et donc, tout ce qui est économie d'énergie ou nouvelle énergie renouvelable se développe parce qu'il y a une conscience qui dit il y en a marre de polluer, on va prendre les choses en main un peu plus sérieusement. Et puis, alors une autre nouvelle qui me revient, parce que là c'était en effet dans Futur, c'est une émission extrêmement intéressante, c'est quel sera le monde de demain? Qu'est-ce qui se prépare maintenant? Comment ça va prendre corps dans notre société? Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça s'appelle l'aquapooning. Alors, est-ce que c'est aquapooning? Alors, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire qui combine l'aquaculture, la pisciculture, l'élevage de poissons, et l'aquaculture, le fait de faire pousser des plantes hors sol. Alors, les plantes ont leurs racines qui baignent dans un milieu qui est de l'eau. Et dans un autre bassin séparé, il y a des poissons qui sont élevés. Ils sont nourris avec du végétal. Les déchets des poissons passent dans un système avec des bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrate et vont servir d'aliment aux plantes. Ce qui fait que quand les racines ont puisé les nitrates, alors l'eau a été purifiée et elle est remise dans les poissons. L'eau est beaucoup plus pure une fois que les plantes ont extrait tout ce qui leur servait. Et on a un...
Les légumes, les plantes tombent et les poissons se nourrissent.
Voilà. Non, les poissons ne mangent pas les légumes. En fait, on cultive des salades, des choses comme ça. Et c'est les poissons, au lieu de faire plein de déchets dont on ne sait pas quoi faire, les déchets des poissons nourrissent les plantes. Et en fait, il n'y a aucune pollution. Il y a une sorte de cercle. Et en pleine ville, ils ont produit 800 kilos de poissons et plusieurs tonnes de salades en pleine ville. Sur un hectare, alors je crois que c'est en Hollande, il me semble, parce que la Hollande, c'est... sur un hectare de surface, ils ont produit 20 fois plus que sur un hectare de terre. Il n'y a pas besoin de charrues, il n'y a pas besoin de... Voilà, et parce que ça peut se faire avec des étages et tout. Donc, voilà un moyen de nourrir la terre et puis de produire du poisson. Et en plus, il n'y a pas de déchets nocifs. Voilà. Alors là aussi, les agriculteurs, ils doivent s'adapter. Mais en même temps, c'est tellement difficile aujourd'hui le métier d'agriculteur. Si on peut leur faciliter la vie avec ce système, en même temps, ils produiront des poissons. C'est un exemple, hein. C'est vraiment quelque chose qui dit que quand on réfléchit un peu, alors il y a des solutions qui peuvent mêler plusieurs domaines et qui peuvent être utiles pour tous, pour la Terre, pour nourrir la planète, pour produire de la nourriture, des poissons. Enfin, c'est des poissons d'eau douce, mais... Je trouve que, c'est... Alors, il y a un rendement beaucoup plus important. Hein. Par exemple, les tomates, tu vois, c'est des énormes tomates. Et puis, il y a un restaurant sur Amsterdam qui se fournit exclusivement dans cette serre-là. Et ils disent que le livreur, il les livre en vélo. Ce qui fait qu'il y a zéro carbone. Et le chef cuisinier du restaurant, il dit, les légumes ont un goût, mais génial. Et ils se gardent beaucoup plus longtemps parce que c'est du jour même. C'est l'usine vrai. Est là, dans la ville, le restaurant est là. Le mec, il vient en vélo avec sa petite cagette. Bon, on est dans un autre système d'échelle, là. Voilà, ça, c'est des petits exemples. Bon, la Hollande... Amsterdam aussi, il y a quand même beaucoup de... Il y a une conscience. C'est un pays qui me fait beaucoup d'effet, hein, moi, quand je vais là-bas. C'est pas que le pays du fromage. C'est aussi...
Le pays du pétard.
Voilà. Mais il y a de la tolérance. Il y a beaucoup de tolérance hein, dans ce pays. Donc la tolérance ne peut pas survenir sans une ouverture de conscience. On peut pas être tolérant et en même temps fasciste. Hein, ça va pas ensemble. C'est parce qu'il y a de la tolérance que la conscience permet des avancées comme ça, majeures. Voilà, si quelqu'un veut rajouter des nouvelles, des choses qui se passent dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie d'inhabituel ces temps-ci, ou qu'est-ce qui s'est passé dans le monde qui a pu vous surprendre? Je suis sûr qu'il y a encore des choses qui vont me revenir tout à l'heure. Je sais que le rouble est très secoué en ce moment. Il y a eu un nouvel épisode où la Russie a dû mettre 4 milliards de dollars de soutien à sa monnaie. en une semaine. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc les marchés financiers sont assez malmenés. Il y a eu à un moment donné, c'est la deuxième fois en trois semaines, où la plupart des bourses ont plongé jusqu'à 8%. Pourquoi ? Parce que ça venait de la Grèce. D'ailleurs, la première fois, c'était aussi à cause de la Grèce. La Grèce a dit qu'ils allaient faire un nouveau... Ils allaient anticiper les élections présidentielles et que si jamais ils n'arrivaient pas à faire un gouvernement avec une majorité, etc., c'est le parti d'opposition qui ne soutient pas du tout l'austérité ni les réformes qui allait être au pouvoir et qui allait peut-être arrêter de payer. Voilà, c'est des bonnes nouvelles pour nous, hein, ça. Mais pour les marchés, c'est extrêmement déstabilisant que la Grèce, tout d'un coup, puisse dire « Votre emprunt, gardez-le, nous, on ne le rembourse pas. » Donc, c'est ça le risque. Et c'est ça, en une journée, moins 8%, les bourses ont plongé, l'or est monté en flèche. Voilà, c'est toujours à l'envers, hein, les deux indicateurs. Et puis, le rouble est attaqué, d'une certaine manière, parce qu'il y a des sanctions contre la Russie à cause de l'Ukraine, tout ça. Donc, le rouble, l'économie russe est un petit peu dans des difficultés en ce moment. Et puis, Poutine disait faut trouver un moyen de punir les spéculateurs qui sont à l'origine de cette perte. Alors, il semblerait que le rouble ait perdu 60% de sa valeur en un mois, 40%. Mais ça a augmenté encore, hein, ces jours-ci, avec la chute des bourses. Donc, le niveau de l'or est important en ce moment, le niveau de Wall Street est important en tant qu'état émotionnel de la planète. Hein. Pour la conscience, vous pouvez vous intéresser un petit peu à la finance parce que ça traduit l'émotivité de la planète. Plus il y a des nouvelles qui sont pour les politiques difficiles à entendre, et plus l'économie plonge. Et peut-être qu'il y aura la nouvelle avec un grand L ou un grand N qui va faire un crack réellement parce que ça sera incontournable.
Il ne faut pas grand-chose.
Tu veux
prendre... Non, mais il ne faut pas grand-chose maintenant. Il ne faut pas grand-chose pour un grand crack maintenant. Tout est réuni, il faut juste attendre un peu que ça secoue. C'est tout ce que je voulais dire. Au revoir, bonsoir. Mobilisez-vous pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on compte sur vous, sinon la deuxième porte va se refermer dans 3 mois. Merci, c'était Jacques qui vous a parlé, en direct de Romainville.
Voilà, alors, surveillons l'énergie, puisque nous entrons à 6h du matin dans un portail favorable, le portail Isis, la présence de Cobra en Égypte, Isis, déesse égyptienne, ça fait des conjonctions, la conjonction Uranus-Pluton. Donc, surveillons l'énergie, surveillons les manifestations, dans notre vie avec ce portail qui s'ouvre qui est aussi peut-être synonyme d'augmentation du niveau d'énergie ressenti sur Terre. Voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Et vous ? Et donc, c'est important de lire la presse, même la presse grand public, parce que il y a des nouvelles qui filtrent, hein, que le monde parle de finances participatives, ça veut dire que c'est assez développé pour intéresser son public. Si c'était un petit fait mineur ou même entre illuminés, entre guillemets, ça ne serait pas dans un journal grand public. Hein. Et pourtant, le monde appartient aux banques. Hein. Si vous ne le savez pas, c'est la propriété des banques, de plusieurs banques aujourd'hui. Et des banques qui sont qui font partie de l'élite. Donc, c'est quand même intéressant de voir que même ces banques-là, elles nous donnent des bonnes nouvelles. Hein. Rien n'est perdu. Voilà. Quoi d'autre ? Prepare for Change. Le site Meetup va peut-être réouvrir. Ce n'est pas certain. Il semblerait que ce soit une question de finances, que Prepare for Change n'avait pas assez d'argent pour repayer encore une année. Donc ils essaient de lever des fonds et puis j'ai reçu un email pour me demander comment fonctionnait Google Doodle, qu'ils envisageaient d'autres solutions que Meetup. Bon, alors Doodle, c'est un logiciel sur Internet pour fixer des rendez-vous les plus sur une plage de date. Combien de personnes, là où il y a le plus de personnes disponibles à une date donnée. Alors nous, on s'en sert pour d'autres raisons. Jeudi 14 décembre, réunion à Romainville, si vous venez cocher la case, il n'y a qu'une seule date. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans les autres pays, parce que chaque groupe a son propre endroit pour cocher les cases. Il y a eu une réponse d'une autre personne à qui PFC a demandé aussi son avis, qui disait que Prepare for Change pourrait dédier une partie de son site à faire un... Comment il disait ça ? Un forum sur ce qui s'est passé dans les réunions. Hein, quelque chose de participatif où tous les groupes du monde pourraient venir dire et à ce moment-là on aurait une idée aussi de ce qui se passe ailleurs et puis on pourrait peut-être proposer les dates de réunion, etc. Donc c'est une idée qui peut être moins chère que Meetup et qui peut s'avérer intéressante. Voilà, Prepare for Change. Donc, au niveau des forces de la résistance, Cobra donne des nouvelles sur le site de Cobra. Donc, il a un site distinct de PFC qui s'appelle portal2012.net ou .org. Enfin, si on tape portal2012 en deux mots sur Google, on y arrive. Et puis, donc, il y a eu beaucoup d'avancées sur... nettoyer les énergies sombres sur la planète. Et il y a un dernier groupe très résistant qui s'appelle Chimera, qui est plus dans l'éthérique, donc ils ne sont pas sous forme physique. D'après Cobra, lorsque ce groupe sera vaincu, aura été maîtrisé, la planète sera libérée complètement. Donc c'est assez compliqué parce que les êtres extraterrestres qui sont sous forme éthérique et qui forment ce groupe ont des technologies très très avancées, capables de détruire la Terre en une fraction de seconde avec les particules les particules comme les quarks, les machins, les choses infiniment petites. Voilà, les bombes, c'est des bombes spécifiques qui font un effet de réaction en chaîne, et donc pour les neutraliser, ils doivent être extrêmement vigilants à ne pas déclencher de confrontation très très directe. Donc ils utilisent des moyens qui ne sont pas publics, mais ça avance lentement. Mais d'après la dernière interview de Cobra, puisqu'il y a à peu près une interview par mois, il y a eu une avancée majeure sur Chimera récemment. Chimera étant le dernier point de résistance de, des forces sombres sur Terre. Lorsque Chimera sera vaincue, nous serons dans une planète avec plus aucun contrôle, plus aucun contrôle négatif. Mais ça peut prendre encore un petit peu de temps. Nous ne savons pas réellement, mais il y a eu une avancée majeure. Hein, et donc, alors, quand est-ce que Chimera sera vaincue ? Eh bien, peut-être à ce moment-là, nous le saurons parce que nous sentirons le flash d'énergie en provenance du Soleil central, que ça a été nettoyé et que les obstacles à la conscience, parce que bien sûr, le fait d'être manipulé, le fait d'être soumis, ben, ça bride l'évolution de notre conscience. Si on avait du temps de libre, ben, on méditerait davantage, on s'occuperait de nos enfants davantage, on évoluerait beaucoup plus vite. Alors là, le fait de nous maintenir dans un esclavage de travail, au sens propre, dans un esclavage financier, ben, ça mobilise notre énergie à ce point-là. Le fait de nous diffuser de la peur dans les médias en permanence, ben, ça descend notre niveau vibratoire, ça nourrit aussi ceux qui se nourrissent de peur. Donc c'est une chaîne. Hein. Nous sommes des êtres avec énormément d'énergie de vie, nous sommes des êtres avec énormément de possibilités d'évolution consciente, mais il y a des moyens de nous brider en nous rendant dépendants de l'argent, en nous rendant dépendants de la peur. Si on enlève la peur, si on enlève le bridage, esclavage au niveau de l'argent et au niveau de l'économie, du travail, il est évident que notre conscience, naturellement, va s'élever. Parce que c'est une mise en esclavage. C'est pas que nous sommes des êtres pas évolués. Nous sommes des êtres évolués qu'on tente de soumettre. Hein, et ça fait partie du jeu. En même temps, on s'amuse beaucoup, hein, parce que rien n'est réel. Rien n'est réel. On peut jouer à être les esclaves aussi dans cette pièce de théâtre. Mais si on enlève la chape de plomb, évidemment que ça va pousser, parce que il n'y a plus ce qui retient le fait que ça pousse. Donc, cet événement, il est de nature spirituelle, bien sûr. Il est on enlève la manipulation et puis nous naturellement on se dit moi j'ai envie d'être bon avec toi, moi j'ai envie de faire le bien, il ne me viendrait pas à l'idée de te tuer, de t'assassiner. C'est parce que les gens rentrent dans des boucles perverses de j'ai plus de boulot, j'ai plus de logement, donc je vais devenir violent pour des raisons psychologiques, parce qu'il y a une détresse, hein, y a une détresse à l'intérieur qui peut s'installer. En France, alors j'ai appris ça hier, le polluant principal dans l'eau, dans les eaux usées, c'est le doliprane. Le polluant principal, et on est champion du monde de consommation de doliprane. Les Français consomment énormément. Et pourquoi ? Parce que c'est un calmant pour la douleur. C'est parlant, hein, dans tous les sens du terme. Ça calme ceux qui souffrent. Bon, moi, ça fait des années que moi je jette les boîtes qui sont périmées dans mes tiroirs parce que je ne les consomme pas. Mais les antidouleurs et puis les antidépresseurs, comment on appelle ça ? Dépresseurs ? Antidépresseurs, la France est championne du monde. Et pourquoi on vend autant d'antidépresseurs ? C'est parce que ça anesthésie la plupart des gens. On leur dit, avalez cette pilule et vous allez vous sentir bien. En gros, c'est le message. On invente des maladies pour lesquelles les antidépresseurs sont le remède. Mais cette maladie n'existe pas. Parce qu'il y a un médicament, la maladie est inventée. Et au lieu de dire... On va s'occuper de ce déséquilibre qui est normal, qui fait partie de tout être vivant. On nous dit, vous êtes malade, et donc prenez ce médicament. Et Big Pharma propose le remède à la dépression, mais un truc qui rend la personne d'abord dépendante du médicament, et puis ensuite amorphe, quoi. Il n'y a plus de pouvoir créateur, parce que c'est un cercle qui s'alimente lui-même aussi, hein. Plus je vends de médicaments, plus il y a besoin de médicaments, plus il y a d'argent qui rentre dans les caisses pour fabriquer d'autres médicaments, etc. Donc, si du jour au lendemain, toute la cabale était supprimée, ce qui bien sûr arrivera, hein, ça, on est là pour ça, on y travaille, comme dirait l'autre, si du jour au lendemain, toutes les forces de la cabale en une seconde n'étaient plus là, combien de temps il faudrait pour que, même sans aucune aide, même sans les fonds Nezara, même sans rien du tout, combien de temps il faudrait pour qu'on redevienne des êtres grandioses, aimants, qui cèdent bénévolement, où il y ait moins d'ego, où il y ait moins de peur? Pour moi, ça irait très très vite. Ça irait très très vite parce que notre âme serait contente, parce que notre mission de vie, on pourrait l'accomplir immédiatement sans se poser des tas de questions. On serait dans le bonheur naturellement. Donc, ce mouvement est un mouvement spirituel. Ça prend des allures un petit peu pratiques, ça prend de l'organisation, mais la base, les Pléiadiens, ils sont sous forme éthérique, hein. Ils ne viennent pas à part Cobra qui a choisi l'incarnation, mais la plupart, ils sont peut-être là, bonjour les amis, hein. Certains disaient qu'ils les voyaient ici dans la pièce. Bon, les Pléiadiens ont envie d'aider la Terre parce qu'ils sont dans l'amour, ils ont entendu l'appel à l'aide. Alors moi j'ai lu, je ne sais pas où c'est que j'ai lu ça récemment, ah, c'est avec Dolores Cannon, ça c'est à lire, hein, Dolores Cannon, c'est excellent. Hein. Ça fait 40 ans qu'elle traite les gens sous hypnose profonde, ceux qui ont été enlevés par les extraterrestres, et qu'elle révèle des choses qu'aucun autre magnétiseur ou hypnotiseur ne peut révéler, parce qu'elle va très très profond, eux ils ne vont pas aussi profondément. Et elle révèle des choses sur la conscience, sur les extraterrestres, elle dit que tout le monde est d'accord pour les enlèvements, chacun qui a été enlevé a donné son accord. Il y a des vidéos en français sur Dolores Cannon, extrêmement, c'est une vieille dame, hein. Mais ça fait 40 ans qu'elle fait ça, pratiquement dans l'incognito. Et maintenant, à cause d'Internet, elle dit, son travail commence à être beaucoup plus connu. Cannon, c'est 2ZON. Elle en connaît un rayon énorme sur toute la présence extraterrestre, sur l'âme, sur toute notre réalité de A à Z, c'est-à-dire corps, âme, esprit, entièrement. Hein. Parce que cette hypnose-là, elle s'affranchit des limites du mental. Ça, si j'étais enlevé par un extraterrestre et que ma mémoire a été effacée, et ben, sous hypnose, je peux redécrire ce qui s'est passé, sous hypnose profonde. Voilà, j'ai commencé à écouter, il y a trois vidéos doublées en français, sont extrêmement intéressantes. Voilà, c'est celui qui double Eckhart Tolle, là, quelqu'un qui est très, très conscient, là, qui fait ça, là, filialise.nouvelleterre.com, quelque chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que je parle, dis donc. Aidez-moi. Bon, enfin, en même temps, chaque enregistrement est écouté en moyenne par 200 personnes sur la durée. Sur la durée, hein. Il y en a qui s'est monté jusqu'à 350 personnes pour certains enregistrements. Ça veut dire que, bon, il y a les 120 personnes inscrites officiellement, et puis il y a sur Facebook énormément, combien, 900 personnes?
On est à 1000 membres. Nous sommes à 1000 membres sur Prepare for Change France Facebook.
Voilà, donc la communauté francophone sur Facebook, 1000 personnes. Donc il y a des personnes tout simplement sur Être Plus qui est visité par 6000 personnes par mois qui voient enregistrement PFC du 17 novembre, enregistrement PFC du 24 novembre, enregistrement PFC du 1er décembre. Mais de quoi ils parlent? Alors, à un moment, ils écoutent, parce qu'il n'y a pratiquement que ça. On a fait environ 60 réunions depuis le début, et je peux affirmer sans crainte de me tromper qu'on a été un des groupes les plus actifs de la planète. Parce qu'à un moment donné, on savait ce que les autres groupes proposaient comme réunion, et on a été pratiquement chaque semaine en réunion. Depuis le début du mouvement, le premier, on a été 22 personnes ici, et c'était assez puissant. Donc, ceci dit, sans faire gonfler les chevilles, hein, on fait ce qu'on a à faire, et puis les autres aussi, c'est tout. Hein. Moi, je sens que c'est juste de le faire. Voilà, c'est tout pour ce sujet-là. Lina a déménagé, a priori, c'était un petit peu chaotique. Bonjour Lina. Hein. Il y a eu des petites perturbations dans son nouveau lieu. A priori, c'est terminé. A priori, les perturbations sont terminées. J'ai un petit peu de nouvelles indirectes. Hein. Je ne peux pas te dire absolument tout, mais ça. Elle est au bord de la mer, c'est son rêve. C'est une personne handicapée. Qui a une polyarthrite rhumatoïde sévère et qui a toutes les articulations déformées à cause de ça. Et donc, son rêve et puis son espoir de guérison passait par être dans un lieu à elle et au bord de la mer. Et ces deux choses-là sont réalisées aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui change dans la vie de Lina? Ça. Et cet été, il y a eu beaucoup de solidarité au sein de notre mouvement pour offrir des vacances à Lina, la faire bouger un petit peu en France. Ce qui a été fait partiellement, mais ça a été fait. Voilà. Restons actifs, restons présents à cette énergie de changement, parce que c'est nous, avec nos intentions, qui modifions les lignes temporelles. Hein. Les lignes temporelles ne sont pas figées. Il y a 1 million de lignes différentes. Et avec mes intentions, je vais densifier un futur plutôt qu'un autre. Et cet homme dont j'ai parlé la dernière fois, Philippe Guillemant, dont j'ai diffusé une interview de 5 heures sur Être Plus, extrêmement intéressante, mais au plus haut point, hein, vraiment, parle du fait qu'on peut même modifier une partie du passé avec une intention dirigée vers le futur, parce que passé, présent, futur, c'est un seul paquet. Il n'y a pas, le passé n'est pas séparé du présent, n'est pas séparé du futur. Notre esprit qui est hors du temps voit l'ensemble du passé, présent, futur ensemble, puisqu'il n'est pas dans le temps. Donc, comme notre esprit est beaucoup plus puissant que nous dans cette limite de corps humain, eh bien, notre esprit a ce pouvoir-là de modifier les lignes, le présent, c'est les synchronicités. Hein. Il y a sur le site de Philippe Guillemant un test en ligne que je n'ai pas encore testé. Comment générer des synchronicités volontairement? Et lui, c'est un scientifique. Hein, et son but, c'est de convaincre les scientifiques que les synchronicités se démontrent. Donc lui, il fait intervenir des notions de l'information hors de l'espace-temps. Et donc, il parle d'esprit, il parle d'âme, comme étant des choses scientifiques. C'est une approche qui rallie, qui fait rejoindre science et spiritualité. Et il le dit clairement dans ces termes-là. Sa mission sur Terre, c'est ça. C'est de parler aux matérialistes en leur disant « Vous voyez l'esprit hors de l'espace et du temps a une influence sur l'espace et le temps ». Et donc, c'est une donnée qui est à prendre en compte. Et la nouvelle physique, c'est la physique de l'information. Aujourd'hui, l'information, en physique quantique, on en parle un peu, mais ça s'applique au microscopique. Alors que dans notre monde, la physique de l'information, elle crée des synchronicités. J'arrive dans ce lieu, c'est le paradis pour moi. Je ne sais pas s'il y a un autre lieu à Paris ou autour de Paris qui existe avec tout ce potentiel. Et il y a une bonne partie des choses qui me sont extrêmement utiles ici que je n'ai même pas demandé. Parce que j'ai demandé une dizaine de choses comme caractéristiques avant de venir là. La plupart des choses ont été accomplies, mais le fait qu'il y ait un mur et aucun voisin pour le tantra, c'est absolument idéal. S'il y avait le fait que ce soit un lieu parfaitement isolé phoniquement, c'est absolument idéal et je ne l'avais pas demandé. Le fait qu'il y ait un parking à un mètre de ma porte d'entrée, c'est vraiment génial, même si j'utilise pratiquement plus la voiture. Et puis la cheminée, et puis bon. Donc, les synchronicités, c'est, je regarde mon cadran quand il est 19h19. Et ce soir, Véronique nous a montré que ça arrive très souvent dans nos vies. Philippe Guimand parle d'un truc avec son compteur kilométrique. Il disait, dans 50 km, ça sera la date de naissance de mon fils sur le compteur de ma voiture. Et donc, je vais être ouvert à ce qui va se passer dans 50 km. Il s'est trouvé dans un camping, et dans ce camping-là, il s'est passé plein de trucs. Il n'a pas détaillé, c'est écrit dans son livre. Mais l'univers a concocté ça pile à ce moment-là. Alors, il y a un moment où on arrête de parler du hasard, bien sûr, et on se dit, ma pensée, mon intuition modifie le futur. Et le futur est façonné comme de l'argile pour correspondre à mon intention et densifié. Et il en parle d'une manière scientifique. C'est ça la grande nouveauté, parce que nous, on le sait. On le sait qu'on génère des synchronicités, que l'ange nous dit « regarde le cadran », etc. On le sait. Mais lui, il va s'adresser aux rationalistes. Quand les rationalistes seront convaincus, c'est la grosse révolution dans la physique. Parce qu'on ne peut pas parler de spiritualité aujourd'hui en physique. Dès que tu parles de choses ésotériques, au placard, on ne veut pas entendre parler de ça. Alors, si c'est démontré par la science, waouh, là, il y a des choses qui vont changer à toute vitesse. Il y a des peuples extraterrestres qui ont communiqué, les humides, j'en parle souvent, qui disent qu'ils ont démontré scientifiquement l'existence de l'âme et qu'ils ont démontré scientifiquement l'existence de Dieu. Et ça ne veut pas dire que c'est matériel, le fait que ça soit scientifique. Ça veut dire qu'ils ont démontré que ce sont... Dieu, c'est le principe générateur, ils appellent ça le principe générateur dans l'univers. Ça peut être nous aussi, dans une autre dimension. Et puis l'âme, c'est... atemporel, adimensionnel. Ils incluent le fait que dans leur science, il y a des choses sans dimension et hors du temps. Et l'âme est définie parfaitement. Alors, ils ne nous ont pas donné tous les détails parce qu'ils nous en disent juste assez et puis ils mettent quelques erreurs exprès pour brouiller un peu les pistes, pour pas qu'on ait trop d'informations vraies. C'est à nous de discerner. Mais chez eux aussi, la science et la spiritualité sont ensemble, et c'est l'avenir de la Terre. L'avenir de la Terre, le changement réel dans la Terre, c'est quand on aura uni que la science et la conscience fassent bon ménage. Aujourd'hui, c'est un peu chacun de son côté. Il y a l'Église, ok, tu as le droit de parler de l'âme, il y a la science, ok, tu as le droit de parler des robots, et puis c'est tout. Et puis des particules, et puis de la matière, et puis de l'énergie. Mais l'information, c'est déjà un peu plus... Voilà. Bon, alors, on fait soit une pause musicale, soit on arrête. Parce que moi, je dois aller là-bas. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro, rajouter quelque chose, peu importe quoi, en rapport avec ce qui a été dit? Ou sinon, on clôt l'enregistrement.
Bonsoir. Daniel, c'est une première d'être ici. Mais tout ce qui a été dit, pour moi, c'est une évidence. En quelques mots, pour moi, j'ai donc choisi de venir ici sur Terre. Et Nous sommes dans un grand moment merveilleux que j'attendais depuis 26 000 ans. Et nous sommes en grande, grande période de transition. Donc, pour pouvoir accueillir le nouveau, il faut déjà vider la corbeille de l'ancien. Donc, actuellement, l'ancien s'accumule, parce que il a tellement de choses qu'il veut maintenir, ou en fin de compte aussi qu'il veut s'exprimer, mais en même temps, il n'a plus sa place. Donc, à un moment donné, ça fait pour certains panique à bâbord, mais la corbeille, elle sera vidée par qui ? Par nous, être en conscience, parce que pour moi, c'est une évidence. Et quand la corbeille sera donc vidée, le nouveau pourra être accueilli, parce qu'en fin de compte, le nouveau, il est là depuis très, très longtemps. Tout est là. J'ai une partenaire qui me disait, mais Daniel, Nelly, Catherine, Jacques, en fin de compte, tout est en nous. Il y a juste enlevé ce qu'il y a de trop. Arrêtez d'aller chez les thérapeutes à droite, à gauche ou quoi. Juste, tout est là en nous. Donc pour moi, c'est une évidence. Moi, il n'y a pas à me convaincre, c'est je respire, j'expire. C'est donc l'équilibre de l'est et de l'ouest, comme la circulation du nord au sud, c'est l'axe vertical, horizontal, donc l'homme debout. Et donc, moi, ce que je nomme la croix d'équilibre, avec son centre au milieu. Et donc, tout est. Merci à vous et merci à nous tous d'être ici sur le chemin, d'être à l'écoute.
Et puis, il me revient que Philippe Guillemant, le physicien dont je parlais, a trouvé son inspiration principale dans Dialogue avec l'ange. Et dans Dialogue avec l'ange, il y a sans arrêt la phrase « demande ». Et il a mis ça en action. Et il a fait même des études physiques sur le billard. Parce qu'au billard, quand on lance une boule et qu'il y a 9 boules, elles partent dans des directions. Soit on peut les prédire par la science en disant que s'il y a un choc comme ça, la boule va aller là. Et donc on pourrait prédire l'état du billard avant et après, en fonction de comment la... Donc il a fait des études très poussées sur le billard avec est-ce que les boules vont dans le sens qu'on prédit, ou est-ce qu'elles prennent leur propre direction elles-mêmes, et dans ce cas, c'est la synchronicité, c'est l'intention qui peut les diriger. Et si on trouve des choses qu'on n'explique pas, parce que la physique, elle est déterministe. On dit, si on connaît la vitesse, si on connaît l'emplacement, si on connaît la masse, on sait prédire qu'au moment A, ça sera comme ça, et au moment B, elles seront là, les planètes. Voilà. Ça, c'est déterministe. Mais dans un monde déterministe, nous, en tant que conscience, on n'a aucun rôle à jouer. On n'a pas un rôle... si tout est déterminé, notre avenir, nos actions sont déterminées, parce qu'on est comme des billes dans un plateau de billard. En disant, telle année on est là, telle autre année on sera là. L'univers a un début, aura une fin, mais on saura prédire tout le parcours. Ce qui, bien sûr, est complètement faux. Donc c'est intéressant. Cet homme-là, c'est un homme très intéressant même à regarder, parce que c'est deux vidéos qui durent au total 5 heures. Il est très intéressant à regarder. Parce qu'on voit que c'est un homme simple, c'est un homme qui n'a aucune prétention, qui est humble, qui n'essaye pas de convaincre, mais qui veut rester dans la norme de la science pour parler aux scientifiques actuels. Alors peut-être que ce sera la charnière qui manque à ce monde pour passer de la rationalité à la spiritualité, pour relier les deux. Voilà, alors consensus général pour arrêter. Prenez-en de la graine, soyez journaliste, hein, feuilletez les éditions, regardez qu'est-ce qui se cache derrière les infos ordinaires de tous les jours et qui nous montre que le monde devient autrement chaque jour un petit peu. Alors, info personnelle, la semaine prochaine, je suis indisponible et le samedi et le dimanche, donc il n'y aura pas de réunion ici. Si quelqu'un souhaite organiser la réunion, avec plaisir, dans ce cas, essayez de l'enregistrer, comme ça j'en profiterai aussi. Voilà, donc pour ma part, ben, rendez-vous ici dans 2 semaines pour une prochaine réunion. À très bientôt, chers amis.